France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Audrey Guélil, Adeline Omello et Olivier Déhaye. Voici la troisième émission de notre série consacrée à Georges Selle, décédé il y a 50 ans, le 30 juillet 1970. Nous avions suivi lundi le chef d'orchestre à Vienne et à Prague. Hier, nous étions en sa compagnie à Berlin et à Salzbourg. Demain, ce sera Amsterdam, vendredi New York. Et aujourd'hui, nous faisons escale à Londres, où Arthur Schnabel a enregistré de nombreuses partitions avec l'Orchestre Symphonique de Londres, mais aussi le Philharmonia Orchestra, orchestre de studio. Mais on commence avec le Philharmonique justement qui va commencer, le Philharmonic Orchestra en 1938. Georges Selle y accompagne Arthur Schnabel avec un enregistrement qui a fait polémique, un enregistrement qui a été réalisé le 9 janvier 1938, mais qui témoigne de dissensions entre le soliste et le chef d'orchestre, Georges Selle reprochant à Arthur Schnabel de trop presser dans le mouvement final de ce premier concerto. Au contraire, des admirateurs saluent chez Schnabel son sens du rubato, mais il a fallu refaire quelques prises un an plus tard, le 18 décembre 1938. Alors vous, chers auditeurs de France Musique, qu'en pensez-vous? Le voici, ce fameux rondo polémique de 1938, Arthur Schnabel avec l'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé par Georges Selle.
Thank you.
tension et course de vitesse entre Georges Sell, 41 ans, et Arthur Schnabel, 56 ans, avec au milieu l'Orchestre Philharmonique de Londres qui fait ce qu'il peut dans cette session, dans ces deux sessions de 1938 pour enregistrer donc ce premier concerto en ré mineur opus 15 de Johannes Brahms dont nous écoutions le rondo final. Voilà une situation comparable à celle de Leonard Bernstein, chef d'orchestre, et le pianiste Glenn Gould à New York en 1962 dans ce même concerto opus 15 de Brahms. Bernstein s'adressant même au public avant le concert pour expliquer que les deux musiciens n'avaient pas du tout la même conception de l'œuvre, même si Bernstein montrait beaucoup plus de respect à l'égard de Gould que Georges Sell, déclarant à la presse en 1939, je cite, que Schnabel se livre à son habitude persistante de presser, ajoutant le pianiste doit se reprendre en main, fin de citation. Alors voici une collaboration qui a été beaucoup plus positive, c'est celle de trois artistes, Georges Sell avec un autre pianiste, Alfred Brendel et Elisabeth Schwarzkopf, que nous entendions hier dehors de l'émission consacrée à Berlin. C'est cette fois-ci l'Orchestre Symphonique de Londres que nous allons entendre dans un air de Mozart composé pour la chanteuse Nancy Storace, qui était la première Suzanne des Noces de Figaro. Il s'agit de Ch'io mi scordidite, qu'on appelle aussi Non tener amato bene. Ça, c'est l'air, le récitatif est l'air, le Köchel 505, cette air de concert qui nous dit « Ne crains rien mon amour, mon cœur est pour toujours à toi ». Elisabeth Schwarzkopf, Alfred Brendel, l'Orchestre Symphonique de Londres et Georges Sell sur France Musique.
Consigliare
Âmes qui voyaient ma douleur en ce moment, jugez si un cœur fidèle peut souffrir pareil tourment. Voilà donc cet air de concert que Schell 505, qui en miscordidité, qu'on appelle également Non Temer Amato Bene de Wolfgang Amadeus Mozart, interprété en 1969 par Elisabeth Schwarzkopf, avec à ses côtés le pianiste Alfred Brendel et l'Orchestre Symphonique de Londres dirigé par Georges Sell. Voici de nouveau sur France Musique la voix de Schwarzkopf dans un lead de Richard Strauss. Hier, nous l'avions entendu dans ce répertoire avec Georges Sell et l'Orchestre de la Radio de Berlin. C'est un disque de légende maintenant que ce disque enregistré à la fin des années 60 et qui alterne justement ces deux orchestres, l'orchestre anglais et l'orchestre allemand. Voici donc le LSO, London Symphony Orchestra, dans une des plus belles partitions de Strauss, et Morgan opus 27 numéro 4, sur un poème de John Henry Mackay, qui était un poète né en Écosse mais dont la famille s'est vite installée en Allemagne, ce qui fait que sa poésie est plutôt en langue allemande. John Henry Mackay, qui était un chantre de l'homosexualité, de l'anarchisme, et qui nous livre ici un poème d'amour universel dans ce texte qui nous dit « Et demain le soleil brillera encore, et sur le chemin que je prendrai, il nous réunira, nous les bienheureux, à nouveau sur cette terre qui respire le soleil, et sur la rive, vaste aux vagues bleues, nous descendrons tranquillement et lentement, silencieusement nous nous regarderons dans les yeux, et le silence du bonheur descendra sur nous. » Elisabeth Schwarzkopf, en 1968 avec l'Orchestre Symphonique de Londres dirigé par George Russell. Et le violon solo que vous entendiez là était celui de Edith Peinemann, violoniste allemande née en 1937 et qui a été la protégée de George Russell. Elle l'appelait même Oncle George. Voilà une violoniste peu connue qui a réalisé peu d'enregistrements, qui a un fan club très fervent autour de cette interprète, à redécouvrir Edith Peinemann. Donc c'était Morgen de Richard Strauss sur un poème de John Henry Mackay.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Et nous restons toujours à Londres, mais nous changeons d'orchestre. Après l'Orchestre Philharmonique de Londres et l'Orchestre Symphonique de Londres, voici le Philharmonia, un orchestre de studio à l'origine, qui est devenu ensuite le New Philharmonia et qui se produisait ici en concert au Royal Festival Hall le 12 novembre 1968 sous la direction de George Sell pour la 9e symphonie, l'opus 125 de Ludwig van Beethoven. Voici un enregistrement commenté en ces termes par le musicologue anglais. George Sell donne une puissance et souligne le vif contraste qu'apportent les bois solistes dans cette partition. Dans la 9e, Sell impartit une force de nature différente, un mouvement vers l'avant allié à une magnifique maîtrise structurelle, mais qui ne demande pas de sensibilité pour autant. Dans le scherzo, les timbales sont d'une puissance considérable. Un vent, un adagio, molto et cantabile au phrasé très lyrique. Voilà ce que déclare Robert Matthew Walker au sujet de cette 9e symphonie de Ludwig van Beethoven. Thank you. Molto vivace, le deuxième mouvement de la symphonie numéro 9 de Beethoven, l'opus 125, le 12 novembre 1968 à Londres, au Royal Festival Hall, avec l'orchestre New Philharmonia, dirigé par Georges Selle. France Musique, 14h13, et voici un compositeur que Georges Selle a rarement abordé, en tout cas dans sa discographie, c'est Tchaïkovski. On note en 1968 un enregistrement de sa quatrième symphonie, mais la seule partition sur laquelle Georges Selle revient assez régulièrement, c'est le premier concerto pour piano, que ce soit avec Horowitz, avec Gary Graffman à Cleveland, Horowitz à New York, on y reviendra vendredi prochain, ou encore en 1950 avec Clifford Curzon, un pianiste anglais qui était né à Londres en 1907 et qui avait été un disciple d'Arthur Schnabel, dont il a été question au début de cette émission. Voici le final Allegro con fuoco de ce concerto opus 23 de Piotr Ilitch Tchaïkovski par Clifford Curzon, l'orchestre symphonique de Londres dirigé par Georges Selle. Thank you. Septembre 1950, au Kingsway Hall de Londres, l'orchestre symphonique de Londres dirigé par George Sell accompagnait le pianiste Clifford Curzon dans le concerto numéro 1 en si bémol mineur, l'opus 23 de Piotr Ilitch Tchaïkovski, dont vous entendiez l'Allegro con fuoco final. Et nous allons rester dans cette salle londonienne, le Kingsway Hall, mais 18 ans plus tard, en 1968, toujours avec cet orchestre symphonique de Londres et George Sell, pour un très bel enregistrement des leaders de Gustav Mahler sur les chants, mais les corps merveilleux de l'enfant, de Clemens Brentano et Achim von Arnim, des Knabenwunderhorn, dont voici trois extraits avec Elisabeth Schwarzkopf et Dietrich Fischer-Dieskau. Tout d'abord, Rhein Legendchen, une petite légende du Rhin, où un pêcheur s'imagine que l'anneau qu'il jette dans le Rhin sera mangé par un poisson, qu'on servira à la table du roi et que l'anneau parviendra ainsi à la princesse qu'il aime. Ensuite, il s'agira de poissons également dans la prédication de saint Antoine de Padoue aux poissons. Et enfin, les fières trompettes sonnent lorsqu'un couple se sépare et que le jeune homme doit partir à la guerre.
So predigt die Kirche findlich. Er geht zu den Flüssen und predigt den Fischen. Sie schlagen mit den Schwänzen im Sonnenschein glänzen, im Sonnenschein, Sonnenschein glänzen. Sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Die Karpfen mit Bogen seid all hier erzogen, habt Mäuler aufrissen, sich zuhört befließen. K- kein Predigt niemalen, den Fischen so gefallen. Spitzgosche der Hechte, die immer zu fechten, sie deinen zerschwommen zu hören, den Frommen, auf jene verpassten, die immer zu fasten, die Stockfisch, ich meine, zur Predigt erscheinen. Kein Predigt niemalen, den Stockfisch zu quälen. Sonst langsame Boten steigen einig vom Grund zu höre diesen Bund. Ein Predigt niemals, den Krebsen zu fallen, Fisch große, Fisch kleine, vornehm und gemeine, erheben die Köpfe wie verständige Geschöpfe. Gottes Begehren, die Predigt anhören. Die Predigt geendet, ein jeder sich wendet. Echte bleiben Diebe, die alle viel lieben, die Predigt hat fallen, sie bleiben wie allen, die Krebs gehen zu bringen, die Stockfisch bleiben dicke, die Karpfen viel fressen, die Predigt vergessen, vergessen. Die Predigt hat fallen, sie bleiben wie allen, die Predigt hat fallen, hat fallen.
Was soll ich hier?
auf grüne Heide, die grüne Heide, die ist so weit. Allwo dort die schöne Trompete
Je pars pour la guerre sur la verte lande qui est si vaste. Oui, là où sonnent les fières trompettes, wo die schönen Trompete blasen, c'est là qu'est ma demeure d'herbe verte. Voilà un des leaders de Gustav Mahler, du corps merveilleux de l'enfant, des Knaben Wunderhorn, chanté par ce duo merveilleux, Elisabeth Schwarzkopf et Dietrich Fischer-Dieskau, avec l'Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par Georges Sell. Auparavant, Dietrich Fischer-Dieskau chantait la prédication de Saint-Antoine aux poissons, qui sera le scherzo de la deuxième symphonie de Mahler, et puis plus tard également le mouvement central de la Sinfonia de Luciano Berio, enregistrement réalisé en 1968.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Et maintenant, je vous propose de jouer à la tribune des critiques de disques, sauf que je vous annonce ce que nous allons entendre maintenant, et je vous annonce les interprètes. C'est la même partition qui avait ouvert cette émission. Il s'agit du rondo final du premier concerto de Brahms en ré mineur, opus 15. Nous avions entendu tout à l'heure la version polémique de 1938 avec Arthur Schnabel. Eh bien, voici un quart de siècle plus tard, l'un des élèves de Schnabel, Clifford Curzon, qui retrouve ce même orchestre symphonique de Londres dirigé par Georges Sell. Alors, c'était le philharmonique tout à l'heure entendait, mais c'est bien Georges Sell qui dirige ici en 1962 cette partition. Alors comparaison, on n'est pas raison, c'est surtout le grand plaisir de retrouver ce rondo final de l'opus 15 de Johannes Brahms.
Thank you.
1962, Clifford Curzon interprétait le final du concerto opus 15, numéro 1 en ré mineur de Johannes Brahms avec l'Orchestre symphonique de Londres dirigé par Georges Selle. Georges Selle qui a quitté ce bas monde il y a 50 ans en fin juillet 1970, à un jour de décalage avec John Barbirolli d'ailleurs. Et l'esprit de Georges Selle planait encore 15 ans après sa mort sur cet Orchestre symphonique de Londres, en tout cas dans cet enregistrement réalisé par le chef australien Geoffrey Simon, puisqu'il s'agit du quatuor à cordes numéro 1 de Bedřich Smetana, de Ma vie. Alors quatuor à cordes, qu'est-ce que cela vient faire dans l'orchestre symphonique? Eh bien c'est une orchestration de Georges Selle, nous allons entendre. Georges Selle a été un enfant prodige du piano, on aura l'occasion de l'entendre au piano demain ou après-demain, je ne sais plus. Et c'était également un compositeur dans ses jeunes années qui a rejeté certaines de ses partitions. Mais en 1940, il proposait pour le public américain une orchestration de ce quatuor à cordes autobiographique de Smetana. C'est une partition de 1876 dans laquelle Smetana évoque sa jeunesse, sa rencontre avec sa femme et puis également la tragédie de la surdité. C'est le quatrième mouvement qu'on va entendre maintenant. Je cite Smetana, « Réveil de la fierté nationale, influence de la musique nationale sur le compositeur, sa culture jusqu'au moment d'un mi strident, symbole de ma destinée vers la surdité. » Résignation et espoir, fin de citation. Quant à Georges Selle, eh bien, il expliquait justement le pourquoi du comment de cette orchestration. L'abondance de grands arpèges prouve que quatre instruments ne suffisaient pas pour permettre à Smetana d'exprimer sa pensée musicale. L'orchestre lui apporte, selon moi, des horizons musicaux plus larges que ceux qu'il a pu connaître jusqu'à présent pour quatuor à cordes, et il les mérite. Thank you. On entendait bien au milieu de la partition un mi strident signalant l'apparition de la surdité de Smetana avant la résignation et l'acceptation finale. C'était le final du premier quatuor à cordes de Smetana, De ma vie, orchestré en 1940 par George Sell et joué par l'Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par Geoffrey Simon. Et on peut dire que l'orchestration est un art dans lequel, là encore, George Sell excelle. Bonjour Lionel Esparza.
Excellent, excellent, très très bien. Chérie, passe-moi le sel, on continue encore demain, c'est
pas
ça?
Pas mal non plus, avec Amsterdam et l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, donc Paul Badura-Skoda et Arthur Grumiaux au programme.
Merci François-Xavier, à demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.